Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu, il est 19h03 et c'est l'heure des infos.
Bonsoir.
Alors de quoi on va parler ce soir? On commencera par plusieurs petites brèves, ma foi.
Et oui, c'est ça. Voilà. Après, on va parler de l'occupation par des parents d'élèves du collège Jean Massé à Villeurbanne pour loger 4 enfants et leur famille.
Et puis, on reviendra sur l'augmentation du salaire minimum au Royaume-Uni, avant une petite pause musicale.
Et puis, figurez-vous qu'au Kazakhstan, ça chie des bulles, comme on dit. Le mouvement social, je veux dire.
Ah ouais, qui est plus, un peu plus que des bulles, hein, et il est plus consistant que ça.
Et puis après, bah, ma foi, bye bye Bayer, ciao Monsanto.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et pour commencer, en Russie, un nouveau recul sur la liberté d'expression et d'association, puisque le 28 décembre dernier, l'ONG russe Memorial International, fondée en 1989 pour faire la lumière sur les victimes du stalinisme, a été dissoute par les autorités russes après des années de harcèlement, d'amendes et de procès. Un de ses principaux animateurs, un spécialiste de l'histoire du goulag, vient d'être condamné à 13 ans de colonie pénitentiaire et de régime sévère dans sa colonie pénitentiaire, presque un goulag finalement. Le comble, le centre de défense des droits humains fondé par Memorial, qui a dénoncé les crimes du régime de Poutine, notamment lors des guerres de Tchétchénie et les crimes aussi des mercenaires du groupe Wagner en Russie, en Syrie, est aussi menacé. Une répression coutumière de Poutine qui dégrade encore un peu plus les conditions de vie des Russes.
Canu Info. Du mercredi.
Le groupuscule d'ultra-droite Les Zouaves Paris, soupçonné notamment d'être impliqué dans les violences commises lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte en décembre, a été dissous mercredi en Conseil des ministres, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Selon le décret de dissolution, ce groupe informel apparu en 2017 et rassemblant une vingtaine de membres est accusé d'être à l'origine de nombreux et récurrents agissements violents, et de propager un discours ouvertement raciste, diffusant régulièrement des images reprenant les symboles de l'idéologie nazie. Alors c'est un même article de l'AFP qui est repris un peu partout, difficile de trouver autre chose, en tout cas là juste en préparant les infos. Cet article détaille à quel point les Zouaves Paris sont nazis dans leur idéologie et violents dans leur pratique. C'est ça en fait, on se souvient que le grand public a fait leur connaissance au moment où ils ont été impliqués dans cette histoire d'agression de militantes et de militants de SOS Racisme pendant le meeting de Zemmour début décembre. La seule chose que l'article de l'AFP n'explique pas, c'est ce que veut dire concrètement la dissolution d'un groupe qui n'a pas d'existence légale. Je veux dire, à part une occasion de marquer une distance purement symbolique pour le coup entre la droite dure de Macron et Darmanin et l'extrême droite de Zemmour et des identitaires.
Canu Info.
Mais où sont donc passées les doses d'AstraZeneca? S'il incarnait l'espoir en mars 2021, ce vaccin n'est à présent plus délivré en pharmacie, ni dans les établissements médicaux. En effet, les autorités de santé ont mis en doute son efficacité contre le Covid-19, comparée à celle de ses concurrents à ARN messager, donc le Pfizer et le Moderna. Sa distribution a donc été arrêtée. Mais donc, où sont passées les doses non utilisées? Une bonne partie d'entre elles arrivées à péremption. Ah oui, une idée?
Ah bah j'imagine, s'il n'est pas efficace, qu'elles ont été purement et simplement détruites.
Alors peut-être. En fait, une partie a été arrivée à péremption. Donc celles-ci, elles ont été détruites hein, quand même. Mais une autre partie, pas très efficace quand même, a été orientée vers le dispositif dit COVAX, un organisme mis sur pied par l'Organisation mondiale de la santé et par aussi un groupe de laboratoires qui est prétendument mis en place dans le but de mieux répartir les vaccins dans le monde. Voilà, on a longuement parlé de COVAX l'année dernière sur cette antenne. Et donc le dispositif, où a-t-il envoyé ses doses d'AstraZeneca non utilisées? En Afrique. Eh bien oui, ça a été le cas de 27 des 34 millions de doses reçues par la France et 9 millions d'autres commandées avant juillet. Mais non encore livrées, devraient prendre le même chemin. Bref, le continent africain sert de réceptacle aux vaccins peu efficaces ou à ceux dont la date de péremption est proche. C'est ce qu'on appelle la solidarité internationale. Oui, enfin à la mode capitaliste, quoi.
Radio Canu.
Canu Info.
Du mercredi.
Et on revient rapidement sur les événements au Soudan, puisque l'armée s'est déployée en masse mardi 4 janvier, à Khartoum et dans les villes voisines, deux jours après la démission du premier ministre civil, Abdallah Hamdok, qui était considéré par les manifestants non pas comme leur premier ministre civil, comme ils le demandent depuis quelques semaines, mais plutôt comme une simple marionnette du pouvoir militaire. Alors les rues menant au QG de l'armée dans le centre de la capitale ont été bouclées au milieu d'un imposant dispositif sécuritaire, notamment de la police anti-émeute, des forces paramilitaires et de l'armée. Des gaz lacrymogènes ont été tirés pour disperser les manifestants et manifestantes anti-putsch qui s'étaient rassemblés devant le palais présidentiel. Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes, du coup, mais aussi ont tiré à balles réelles sur les manifestants et manifestantes, malgré les promesses du pouvoir militaire de mettre fin à l'usage excessif de la force. Les forces de sécurité empêchent aussi les ambulances de circuler pour secourir les victimes. Selon des sources médicales, depuis le coup d'État du 25 octobre, dirigé par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, avec le soutien tacite de l'Égypte, d'Israël et des Émirats arabes unis, 57 manifestants ont ainsi été tués et des centaines d'autres ont été blessés. Mais la mobilisation tient bon et continue de réclamer un pouvoir civil.
Canu Info.
Le collectif Jamais sans toi, vous savez, ce collectif dont on vous parle maintenant depuis tellement d'années, qui soutient les enfants scolarisés sans logement, ce collectif s'est à nouveau mobilisé lundi dernier, avant-hier, pour venir en aide à une famille de 4 enfants scolarisés à l'école Jean Zay et au collège Jean Massé à Villeurbanne. 4 enfants ont été mis à l'abri, 4 enfants et leurs parents ont été mis à l'abri dans les locaux du collège. Pendant les vacances de Noël, là, la famille était, ma foi, mise à l'abri grâce à la solidarité des parents d'élèves. C'est-à-dire qu'ils étaient chez des gens, quoi, chez des parents d'élèves de la classe de leurs enfants. Bon, maintenant, c'est la rentrée et la famille est à nouveau à la rue. Alors, le collectif Jamais sans toi demande, ouvrez les guillemets, que leur droit à l'hébergement inconditionnel soit appliqué. Vous voyez cette histoire de droit à l'hébergement inconditionnel. Alors c'est une loi légale, c'est une loi votée, tout ça, une loi de la République, votée depuis déjà quelques années, hein, puisque c'était à l'époque de la présidence de Sarkozy. Mais il faut quand même bien dire que déjà à l'époque, elle faisait partie de ces lois qui n'engagent vraiment que celles et ceux qui y croient. Au premier rang desquels, on ne trouve certainement pas l'État ou aucun ou aucune de ses représentants ou représentantes. Aucune préfecture, aucun ministère, aucun fonctionnaire n'a jamais pensé que cette loi était faite pour être appliquée. Et de fait, elle n'a jamais été appliquée. Alors, devoir de moyens, ils disent, pas devoir de résultats. En clair, ça veut dire, si on avait des maisons disponibles, si on avait des tonnes d'immeubles entièrement vides et dont on n'avait vraiment rien à faire, Alors à ce moment-là, oui, on devrait respecter la loi. Mais bon, c'est con, en fait, on n'en a pas. Enfin, si d'ailleurs on en a, mais elles sont certainement pas vraiment disponibles, puisqu'on peut imaginer que si ça se trouve, un jour ou l'autre, on aura un autre plan de quelque chose à en faire, donc on ne peut pas considérer qu'elles soient disponibles. Alors voilà, ma foi, on a fait ce qu'on pouvait, c'est-à-dire rien du tout, et ne venez pas nous en demander plus. Résultat, dans le cas qui nous occupe, le collectif indique avoir épuisé tous les recours possibles auprès des services de l'État et se voit, disent-ils, dans l'obligation de mettre à l'abri cette famille dans les locaux du collège Jean Massé. Au mois de décembre, plusieurs écoles de l'agglomération avaient déjà été occupées pour loger des familles d'élèves. Et la ville de Lyon, alors que pour le coup, de fait, c'est quand même plutôt le boulot de la préfecture qui est représentante de l'État que le boulot des collectivités territoriales, c'est-à-dire l'agglomération ou le Grand Lyon ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, en décembre, c'est la ville de Lyon qui avait prêté, en quelque sorte, à la préfecture un gymnase pour s'occuper de l'hébergement d'urgence des familles qui étaient dans ces différentes écoles qui avaient été occupées. Une centaine de places ont été créées à ce moment-là, mi-décembre, et ma foi, les occupations d'écoles à Lyon avaient pu être levées à ce moment-là. Bon, les familles en question, qu'est-ce qui se passe depuis ? Ma foi, elles dorment toujours dans le gymnase. Alors, c'est toujours mieux que dehors, mais enfin, en termes de conditions de vie, c'est pas exactement ce qu'on peut appeler un logement, un relogement ou quoi que ce soit. C'est vraiment un toit, quatre murs et des lits de camp. Et puis lundi, donc, bah, ma foi, voilà, la situation se dégrade ailleurs. Et là, on en est là. Une nouvelle école a dû être occupée. Alors, allez, est-ce qu'on fait quand même cette blague ? La blague de rappeler une promesse de Macron, une promesse de juillet 2017. À l'époque, ma foi, Macron avait promis que d'ici la fin de l'année 2017, donc, personne ne dormirait dehors. Aujourd'hui, on est en 2021 et c'est les parents d'élèves qui doivent occuper un collège pour tenir la promesse faite par quelqu'un d'autre.
Du mercredi sur Radio Canule. Radio Canule, la plus rebelle des radios.
Et on poursuit en parlant un peu de l'augmentation du salaire minimum au Royaume-Uni. Pour rappel, en France, le SMIC a augmenté cette année au 1er janvier de 0,9 petits pourcents. Alors que tout a augmenté, que les sociétés d'autoroutes ont annoncé une hausse de 2% des péages début février. Il y a une hausse de 19% du timbre. L'électricité, je ne sais plus, c'était de l'ordre de 5% peut-être. Enfin, voilà. Et le SMIC, 0,9.
Eh bien, au Royaume-Uni. Alors, bon, il faut dire qu'au Royaume-Uni, pour le salaire minimum, c'est vrai qu'on part de loin, on part de très loin. Et on se rappelle que le Royaume-Uni, c'est le pays de Margaret Thatcher, avec tout cette espèce de passif de libéralisme un peu hardcore. Donc, à l'époque de Thatcher, dans les années 80, mais qui est quand même vraiment le fond de la culture politique du Royaume-Uni. Mais alors, figurez-vous que malgré ça, depuis 2015, le salaire minimum a augmenté d'un tiers. Et que c'est pas fini. Actuellement, aujourd'hui, il est à 8,9 livres de l'heure, c'est-à-dire 10,63 €. Il a rejoint le niveau du SMIC français, même très légèrement dépassé, puisqu'en France, c'est 10,57 €. Et en avril, il va encore faire un bond de 6,6%, et du coup, il sera à 11,30 €, c'est-à-dire 9,50 €. Et à ce moment-là, il dépassera très nettement le SMIC en France. Tous les économistes pensent qu'à partir d'un certain niveau de salaire minimum, le salaire minimum va finir par réduire le taux d'emploi, mais personne ne sait à partir de quand. Le Royaume-Uni l'augmente progressivement et il expérimente année après année. Et pour l'instant, ma foi, il n'y a aucun effet sur l'emploi. Tout le contraire donc de ce que nous racontent par ici les patrons et leurs représentants à l'Élysée. Puisque en pleine épidémie de Covid-19, le taux de chômage britannique est à 4,2%. Donc malgré cette espèce d'augmentation à marche forcée du SMIC, et en fait, il y aurait même plutôt plus d'emplois aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire. Cette politique date du gouvernement conservateur de David Cameron. À l'époque, le ministre des Finances, qui s'appelait George Osborne, il voulait faire des économies de budget, mais avec des salaires qui étaient des salaires qui stagnaient depuis la crise financière de 2008, c'était chaud pour un paquet de ménages. Et les aides sociales continuaient d'être un gros truc. Donc pour économiser les aides sociales, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, eh ben, il faut passer d'une économie au salaire bas, aux impôts et aux aides sociales élevées, à un pays au salaire plus élevé, et pour le coup que ce soit les impôts et les aides sociales qui puissent baisser. Donc un objectif, augmenter progressivement le SMIC britannique à 60% du salaire médian, alors qu'à ce moment-là, il était plutôt aux alentours de 50% du salaire médian. Le salaire médian, vous savez, c'est plus ou moins la moyenne des salaires, quoi. Mais c'est pas exactement ça. Ouais, merde, je me rappelle pas.
Il y a une différence entre médian et moyen.
Ouais, c'est ça,
et
tout à fait.
Médian, ça doit être
c'est le truc où une moitié des salariés touchent plus et une moitié des salariés touchent moins.
C'est ça. Tandis que la moyenne, c'est tout mélangé. Et qu'est-ce que ce serait le salaire de tout le monde si on mélangeait le salaire de tout le monde.
Mais alors voilà, du coup, il décide ça. Et là, bim, 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 plusieurs augmentations balèzes. Et en avril 2020, c'est bon, c'est fait. On est à 60% du salaire médian, sans finalement rencontrer de grandes difficultés, figurez-vous, chez les employeurs. Et c'est ça le plus étonnant de toute cette affaire. Par ailleurs, aucun effet négatif sur l'emploi, du coup. Alors, un économiste de la HSBC... Attendez, mais là vous allez voir, on cite que le gratin de la banque, du libéralisme, de tout ça, qui trouvent tous que c'est OK d'augmenter les salaires. On n'est pas en France, hein. On n'est pas du tout en France, pour le coup. L'économiste de la HSBC, il dit « C'est l'histoire du chien qui n'a pas aboyé. Les inquiétudes que le salaire minimum allait mener à des augmentations majeures de prix et à de larges pertes d'emplois ont été, pour l'instant, sans fondement. » Du coup... Les salariés qui étaient légèrement au-dessus du salaire minimum, ben aussi, ils ont bénéficié de cette hausse, puisque leurs employeurs, globalement, cherchent à conserver les écarts entre les salaires. Et donc, ceux qui touchaient un peu plus que le SMIC, ben, ma foi, ils touchent un peu plus que le SMIC d'aujourd'hui aussi, quoi. Donc, ils touchent aussi un peu, mais ils touchent aussi le même pourcentage en plus de ce qu'ils touchaient avant l'augmentation. Du coup, les gouvernements conservateurs britanniques successifs ont poursuivi la même politique, puisque, ma foi, toutes les catastrophes qu'ils avaient eux-mêmes prédites n'arrivaient pas. Et donc, Theresa May a lancé un objectif confirmé après par Boris Johnson, on parle que de gens de droite, hein, qui était d'atteindre 66% du salaire médian d'ici 2024, c'est-à-dire on continue à augmenter. Alors tout ça ne signifie pas du tout que la vie avec un salaire minimum en Angleterre, que c'est facile. On parle quand même d'un pays où la pauvreté, la grande pauvreté, ça a quand même toujours été vraiment autre chose de ce que ça a été en France. Que ce que c'était et que ce que c'est en France. Il y a qu'à voir tous les films de réalisme social anglais, c'est quand même vraiment trash.
Et où les loyers sont incommensurablement plus chers, proportionnellement au salaire qu'en France.
Ouais, tout à fait. Alors, en parallèle de la hausse du SMIC britannique, il faut aussi dire que plusieurs aides sociales ont été réduites, puisque c'était ça le plan de départ. On augmente les salaires, mais bon, on baisse les aides sociales. Par ailleurs, de nombreux bénéficiaires du salaire minimum, et souvent des mères célibataires, travaillent seulement à temps partiel. Ce qui fait que ça veut dire que tout le monde ne va pas se mettre à toucher réellement le SMIC. Les gens touchent une partie du SMIC puisqu'ils travaillent une partie du temps. Dans les banques alimentaires, c'est courant qu'il y ait des personnes qui ont un emploi et qui n'arrivent pas du tout à nourrir leur famille. Et puis, le marché du travail reste très libéral, les licenciements sont faciles, il y a des milliards de possibilités de contrats flexibles, des trucs complètement... Je veux dire, même Macron n'en rêverait pas, pour le coup. Et... Alors, il y a une association de pauvres, quoi, d'aide aux pauvres, qui s'appelle la Living Wage Foundation. Eux, ils calculent qu'un salaire de vie permettrait de vivre décemment. Qui permettrait de vivre décemment, il faudrait qu'il soit à 9,90 €. Et là, on a dit tout à l'heure qu'on vient d'arriver à 9,50 €. Et puis, si les gens vivent à Londres, il faudrait même qu'ils soient plutôt à 11,05 €, d'après leurs calculs. On n'y est pas encore. Mais quand même, c'est un sacré progrès, c'est une direction, quoi. C'est vraiment que on avance. En 2015, 21% des salariés étaient dans la catégorie à basse rémunération, c'est-à-dire qui gagnaient moins des deux tiers du fameux salaire médian. En 2020, au lieu de 21%, il n'y en a plus que 14%. Alors, le plus étonnant de tout ça, c'est que, ma foi, cette augmentation, qui est quand même vraiment massive, provoque finalement très peu de débats au Royaume-Uni. Dans la majorité conservatrice, ma foi, tout le monde s'en fout. Le Parti travailliste, alors, ils promettent officiellement une hausse du salaire minimum à 10 livres de l'heure. Mais enfin, vu que là, elle est à 9,50 € et qu'elle doit passer à 9,90 € au mois de mars, ma foi, ça devient plus une promesse tellement dingue. Quant à ce truc qui s'appelle la Confederation of British Industry, ne me demandez pas l'accent, s'il vous plaît. En gros, la traduction, ça veut dire le MEDEF. Qu'est-ce qu'elle en pense? Eh bien, elle en pense qu'elle soutient, pour l'essentiel, la hausse des salaires. Elle appelle juste à un peu de modération dans le rythme des augmentations, parce que blabla, le Covid, blabla, blabla, bon, ça reste des patrons. Mais c'est quand même vraiment, vraiment pas la même ambiance qu'en France, quoi.
Ah, il faut bien préciser qu'il n'y a pas du tout d'aide de l'État pour impulser aux entreprises cette augmentation.
Ah non, non, non. Ah ouais, non, non. C'est ça. Il faut que les entreprises augmentent les salaires. Point. C'est pas sous forme de comme ferait effectivement la France dans ces cas-là. De tiens, on va vous demander d'augmenter de 1% les salariés. Moyennant quoi, on va vous filer des aides correspondant à 50% des salaires. Non, non, c'est pas ça. Alors, l'article du Monde que je suis en train de vous raconter, en fait, il faut bien le dire, cite quand même alors un grand patron qui n'est pas très content, mais bon, lui, pourquoi il n'est pas très content? Parce que lui, il paye de fait ses salariés plus ou moins 10% de plus que le salaire minimum, et il tient à rester au-dessus du salaire minimum. Alors, comme le salaire minimum augmente, il va être obligé d'augmenter lui aussi. Le truc que je disais tout à l'heure, là, c'est que les gens qui touchent un peu plus, bah, effectivement, ça augmente pour eux aussi. Il y a aussi la fédération des petites entreprises qui trouve que bon, eux, ils trouvent que c'est chaud, qu'ils n'y arrivent pas. Bon, les petits patrons, vous voyez, oh là là, ils râlent. C'est normal, les petits patrons, c'est comme ça. Mais enfin, ils râlent quand même modérément. Hein. Oui, c'est ça, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Le fait qu'il y ait cette espèce de consensus autour du fait que c'est bien d'augmenter les salaires. On parle quand même d'un pays où, dans les années 90, la question était une énorme bataille idéologique. Le Parti conservateur, parce que le Parti travailliste, eux, proposait de créer un salaire minimum. Le Parti conservateur expliquait que c'était la preuve totale et définitive de l'incompétence économique des travaillistes. Le ministre du Travail de l'époque, Michael Howard, il disait que entre 750 000 et 2 millions d'emplois seraient détruits si on créait un salaire minimum. Il parlait même pas du montant, hein, juste le fait de le créer. C'est pour le coup un discours patronal classique et pour le coup le discours des patrons et de leurs employés à l'Élysée en France. De leurs employés à l'Élysée, je voulais dire. Alors, si vous pensez que les British sont un peu dingues, bon, déjà, ils roulent du mauvais côté, alors, ma foi, pourquoi est-ce qu'ils ne se mettraient pas à augmenter les salaires, y compris s'ils sont de droite, plutôt que de les raboter? Eh bien, figurez-vous, vous fourrez le doigt dans l'œil, parce qu'en Europe, ils sont pas... C'est pas un truc si rare, puisque, à part la France, avec les chiffres que tu nous as donnés juste avant que je commence, ma foi, en Espagne, le salaire de minimum a augmenté de 7% en 2017. Tu viens de dire 0,9% en France ce 1er janvier. Et il a réaugmenté de 22% en 2019. En Allemagne, la nouvelle coalition qui vient d'arriver au pouvoir a promis une hausse d'un quart du salaire minimum. C'est-à-dire qu'ils vont passer de 9,60 € de l'heure à 12 €. Eh oui, en France, j'ai dit combien déjà? Attendez, je vais retrouver mon papier là. En France, on est à 10,57 €. En Allemagne, ils vont passer à 12.
Qui est bien supérieur à l'augmentation de l'inflation.
C'est même
au-delà que suivre l'inflation.
Pour le coup, carrément. Alors qu'en France, c'est quand même plutôt un peu moins.
Et on enchaîne avec une petite pause musicale.
First heard the Black Snake Blues. I was just a little boy sitting at my room. I smoke out the window, go down them country roads.
C'était Zachary Richard, bon ton. Et on poursuit en allant du côté du Kazakhstan, puisque depuis le 2 janvier, des milliers de manifestants protestent dans deux villes de l'ouest du pays contre le doublement du prix du gaz liquéfié. Alors, c'est une forme de pétrole qui sert de carburant et dont les Kazakhstanais et Kazakhstanaises sont les principaux utilisateurs. Enfin, c'est une production locale et elle reste consommée localement. Le mouvement a démarré dans l'ouest donc, du Kazakhstan. Il s'est étendu à la plupart des villes hier mardi et a repris ce mercredi. Les Kazakhstanais et Kazakhstanaises n'acceptent pas cette augmentation du prix d'hydrocarbures produits sur place et craignent une répercussion sur les autres prix. Ils ont menacé de démarrer des grèves dans les gisements et dans les usines. Le Kazakhstan possède un quart des réserves planétaires d'uranium et fait partie des 20 premiers producteurs de pétrole au monde. Donc on comprend que ça les inquiète. Dès le 3 janvier, le gouvernement a accepté de baisser le prix du gaz dans l'Ouest, ce qui a encouragé le lendemain des manifestations pour le même objectif à Almaty, qui est la capitale économique, et où les manifestants manifestantes ont été accueillis par les gaz lacrymogènes. N'ont quand même pas cédé, puisque les revendications témoignent aussi d'une critique de fond de la gouvernance du pays, à savoir la corruption, le partage inéquitable de la manne pétrolière, l'absence de responsabilité des dirigeants face aux 18 millions de Kazakhstanais. La nuit dernière, en réponse à ces manifestations, le président Kassym Jomart Tokayev a limogé le gouvernement en nommant le vice-premier ministre comme remplaçant du Premier ministre démissionnaire et a décrété l'état d'urgence jusqu'au 19 janvier et un couvre-feu dans les régions d'Almaty, la capitale économique donc, et de Mengistu. Aujourd'hui, donc mercredi, alors qu'il y avait encore environ un millier de personnes dans la rue à Almaty, alors Almaty, il y a une population d'un peu plus d'1 800 000 personnes, ce qui relativise un petit peu ces manifs comme n'étant pas d'extraordinaires émeutes non plus. Donc aujourd'hui, un groupe de manifestants, manifestantes est rentré dans la mairie pour occuper les lieux. Des hommes en uniforme de police ont été aperçus en déposant leurs boucliers et leurs casques pour embrasser les protestataires. Une manifestante a par exemple crié « Ils sont de notre côté ». La police du Kazakhstan fait état de 200 arrestations et des dizaines de blessés, alors que Internet a été coupé dans le pays, rendant évidemment les communications plus difficiles entre manifestants et empêchant la couverture médiatique. À la télévision nationale, Kassym Jomart Tokayev, le président, donc, affirme que, je cite, « En tant que président, je suis contraint de protéger la sécurité et la paix de nos citoyens » et de m'inquiéter de l'intégrité du Kazakhstan. Il ajoute qu'il a l'intention d'agir de la manière la plus ferme possible. Il y a 10 ans, Jeanne Aozen nous rappelle, le correspondant de RFI, des manifestations liées aux conditions de vie des habitants s'étaient étendues sur des semaines avant que le pouvoir ne tire sur la foule, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Et voilà, donc affaire à suivre, c'est tout frais. On leur souhaite le meilleur.
Et alors, petit point de culture générale sur ce que tu m'as raconté pendant que tu préparais cet article. On dit bien kazakhstanais pour dire habitant du Kazakhstan. Et kazakh, c'est la langue et c'est
et
une
c'est l'ethnie
des
ethnies majoritaires, voilà.
Du Kazakhstan.
Voilà, c'est ça. Qui comporte aussi des Russes et je ne sais quelle autre ethnie.
Radio, la plus rebelle des radios.
Ceci est un ultimatum. Le siège social France de Bayer Monsanto, installé à Lyon, doit partir. Nous leur laissons 3 mois pour faire leur carton et déguerpir de leur tour de verre, et d'ici là, nous saurons le leur rappeler. Nous ne laisserons cette multinationale ni les autres dessiner le monde de demain. Il nous faut désarmer cette industrie meurtrière. Nous appelons à venir assiéger le siège national de la firme le 5 mars 2022. Au nom du noble but de nourrir la population mondiale, les multinationales du secteur agrochimique ont détruit, au nord comme au sud, l'agriculture vivrière en lui substituant du laboratoire à l'assiette, un modèle toxique ultra-carboné dont elle tire profit. La firme Bayer Monsanto incarne plus que tout autre ce système. La liste de ses méfaits est longue à dresser. Son agent orange utilisé contre les populations civiles du Vietnam, les PCB, le Roundup, les OGM, les semences Terminator, les néonicotinoïdes, le fichage des opposants, la falsification scientifique, les procès aux agriculteurs, le lobbying intensif et ses divers conflits d'intérêts. Les conséquences de l'activité de cette firme sont désastreuses. Pollution des eaux et des sols, cancer, malformations congénitales et destruction de la biodiversité, disparition, précarisation et dépendance accrue des paysans et des paysannes dans le monde entier. Les Monsanto Papers ont révélé que c'est en toute connaissance de cause que la firme a contribué ces 50 dernières années à empoisonner les populations. Quand Bayer Monsanto et les autres multinationales de l'agrochimie affirment être à la pointe des sciences de la vie, nous ne voyons que la destruction de la vie et le ravage environnemental. L'agro-industrie est, à elle seule, responsable de plus d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, du fait de la déforestation massive, de l'élevage industriel et de l'usage des engrais de synthèse. Le secteur profite de la complicité des États. Sans rien renier de leur racisme néocolonial, la France et l'Union européenne autorisent aujourd'hui encore l'exportation de pesticides pourtant interdits à l'usage sur leur territoire. L'avenir doit s'écrire sans eux. Malgré tant de nuisances, Bayer Monsanto se targue d'apporter des solutions au réchauffement climatique et à l'augmentation de la population mondiale. La firme se veut à la pointe de la soi-disant innovation en agriculture. Numérique, robotique, génétique est leur slogan. Cette innovation revient à promouvoir le développement d'une agriculture sans paysans ni paysannes. Grâce à la bioinformatique et à la biologie de synthèse pour séquencer et créer de nouveaux gènes, l'intelligence artificielle pour optimiser l'usage des engrais et des pesticides sur tracteurs intelligents, les OGM pour adapter les plantes à la crise médiatique, cette fuite en avant technologique reconduit les mêmes logiques qui nous ont amenés au désastre. Breveter les processus naturels pour satisfaire la rentabilité économique avant tout, favoriser les monocultures, l'accaparement et la marchandisation des ressources naturelles, terres, eaux, semences, par les gros exploitants, déroger à toute précaution dans la manipulation du vivant. Tout le contraire d'une agroécologie qui a déjà prouvé sa capacité à répondre aux enjeux actuels. Ceci est un ultimatum. Le siège social France de Bayer Monsanto, installé à Lyon, doit partir. Nous leur laissons 3 mois pour faire leur carton et déguerpir de leur tour de verre, et d'ici là, nous saurons le leur rappeler. Nous ne laisserons pas cette multinationale, ni les autres d'ailleurs, dessiner le monde de demain. Il nous faut désarmer cette industrie meurtrière. Nous appelons à venir assiéger le siège national de la firme le 5 mars 2022. Bayer Monsanto, ni ici, ni ailleurs. Cet appel est signé et multiplement signé par les Soulèvements de la Terre, les Faucheurs Volontaires, la Confédération Paysanne, les Amis de la Confédération Paysanne, Extinction Rebellion Lyon, Extinction Rebellion Annecy, Extinction Rebellion Strasbourg, Extinction Rebellion Marseille, Extinction Rebellion Besançon, Youth for Climate Lyon, Radi Action, Alter Campagne, Syndicat d'apiculture du Rhône, de la métropole et de la région lyonnaise, Assemblée des Gilets jaunes Lyon et environ, Alerte pesticides Haute-Gironde, Désobéissance écolo Paris, 5 mars 2022.
Voilà, et c'était les infos. On se laisse un petit peu de musique qui nous... Ah mince,
ah, tiens.
Elle a changé, ouais, un changement d'enregistre. Bon, allez, on va mettre plutôt le jingle de fin, si c'est la fin, alors.
Allez, c'est parti.
Et à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.